Donc, je vais introduire le professeur Michel Essaguer, qui est professeur à l'Université de Bordeaux 2, qui dirige le département des arythmies cardiaques au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Il est également fondateur et directeur général de l'Institut hospitalo-universitaire de Bordeaux, qui est un institut de recherche fondamentale, clinique et de formation dédié à la compréhension, à la prise en charge et à la thérapeutique des dysfonctionnements électriques du cœur qui peuvent conduire à l'insuffisance cardiaque et à la mort subite. Les travaux scientifiques et cliniques de Michel Essaguer sont focalisés sur l'électrophysiologie cardiovasculaire, en particulier la fibrillation cardiaque. Il est essentiellement reconnu pour ses contributions remarquables dans le domaine de l'ablation de la fibrillation. Il fut le premier à reconnaître l'importance de la veine pulmonaire dans la genèse de celle-ci, et il a été le premier à proposer la technique d'isolement des veines pulmonaires à la base des méthodes actuelles qui sont utilisées dans le monde entier pour le traitement de la fibrillation auriculaire. Michel Essaguer a publié avec ses collaborateurs un très grand nombre d'articles dans les revues les plus importantes de cardiologie. Il est lauréat de nombreuses et prestigieuses distinctions, dont de très nombreux prix, notamment en 2010. Il a reçu le prix Le Foulon de la Lande de l'Institut de France et le prix de médecine Louis Jeantet. Et il est devenu cette année, en 2010, un membre titulaire de l'Académie des sciences. Je vous propose de l'applaudir.
Il faut partir là. Non, attendez. Merci Nicolas. Mesdames et messieurs, je vais vous parler donc des applications cardiologiques et de la puissance, on va dire, des outils numériques pour nous aider dans la progression donc, de nos recherches et puis de notre travail de médecin. Alors le cœur, bien sûr, tout le monde le connaît sous sa fonction contractile. Donc vous voyez bien le cœur et sa fonction contractile. En fait, notre mission, si je puis dire, et notre intérêt à Bordeaux, c'est surtout l'activation électrique qui précède cette fonction mécanique. Alors là, vous retrouvez donc un schéma que j'ai emprunté à Nicolas, dans lequel vous voyez tous les différents paramètres dont l'on dispose, qui sont des paramètres de structure, avec différents degrés, on va dire, dans l'échelle de la structure que l'on étudie. La fonction, et pour nous, la fonction, c'est la traduction par des potentiels électriques sur le thorax de cette activité électrique. Et c'est dans ce domaine très exclusif et très particulier que nous travaillons. Et puis, toutes ces informations peuvent être ensuite mergées pour faire des images de toute beauté, aussi bien sur le plan anatomo-fonctionnel qu'en dynamique et trois dimensions. Alors, la mortalité cardiovasculaire reste la première mortalité adulte dans le monde, en particulier donc dans le tiers-monde ou les pays émergents. C'est 29% des décès contre 16% pour les infections et 13% pour les cancers, selon l'OMS 2010. En Europe, les maladies cardiovasculaires donc sont passées de la première position qu'elles occupaient. Grâce aux efforts de la recherche, elles sont passées en une vingtaine d'années au-dessous du cancer. Et donc, la première cause reste les cancers à 30% et 28% pour les maladies cardiovasculaires. Et vous voyez les spectaculaires progrès qu'ont permis les différents outils et travaux de recherche en cardiologie, et en particulier au niveau des médicaments ou des interventions coronaires ou autres. Et depuis 10 ans, on voit celui qu'on considérait comme l'oublié, c'est-à-dire cet élément électrique sur lequel je vais revenir. Alors, vous avez ici Röntgen et la main de sa femme. Nous sommes en 1906 ou par là. Et vous avez vu entre la main de Röntgen et les images de structure IRM que l'on peut obtenir, le bond prodigieux que l'on a vu, assisté évidemment par les techniques informatiques. Vous avez ici Eindhoven, qui est donc cet Hollandais qui a eu aussi le prix Nobel de médecine. Et ici, vous avez son système d'électrocardiogramme. Et à cette époque, 1904, il a créé l'électrocardiogramme 12 dérivations. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre 1904 et 2014, on n'a pas vu tellement d'innovations majeures dans ce domaine de notre fonction électrique. Progrès en structure et très peu de progrès là. On a l'impression d'avoir le même ECG 12 dérivations qu'il y avait une centaine d'années. On salue ici M. Cournant, qui est un Parisien émigré aux États-Unis qui a eu le prix Nobel de médecine parce qu'il a introduit des cathéters, d'ailleurs il s'est émis lui-même, et il a montré qu'un cathéter dans le cœur pouvait ne pas le tuer tout d'abord. Et là, une petite leçon, c'est le premier défibrillateur en 1930, et celui qu'il avait inventé a été l'objet d'une attaque par la presse considérable, parce qu'on estimait que, bien sûr, le défibrillateur, il voulait sauver les gens qui faisaient des morts subites dans la rue, et on a considéré que ce n'était pas bien, parce qu'on allait inférer avec la nature humaine et son évolution naturelle. Donc voilà le cœur. Vous avez donc cette pulsation électrique, qui est ce petit mouvement très rapide au travers des canaux ioniques, et qui va précéder la contraction. S'il n'y a pas de pulsation cardiaque, il n'y aura pas de pulsation mécanique. Il y a 100 000 battements par 24 heures, donc c'est une horloge électriquement parfaite. Les autres organes électriques sont le cerveau, bien sûr, et le muscle et le tube intestinal. Alors, l'électrophysiologie est relativement complexe. Vous avez ici une vingtaine de petits canaux qui sont sur la paroi des cellules cardiaques, avec donc des scénarios extrêmement divers selon leur capacité de fonction. Et ce sont des petites portes, des petites pores qui font des échanges extrêmement rapides de potassium, sodium et calcium. Et ces cellules vont communiquer entre elles par des jonctions, puis de ces jonctions, on va avoir des tissus et puis l'organe entier. Et donc, on peut effectuer de façon numérique, par des calculs bidomaines, etc., on peut reconstituer l'électrophysiologie numérique. Donc, on est seulement dans le segment particulier et le nombre d'équations est considérable. Il y a ici l'un de nos chercheurs, il est au pied du supercalculateur canadien, manipulant des 100 millions d'équations, etc., pour pouvoir établir différents scénarios. Vous pouvez donc créer différents types d'électrophysiologie. Ces différents scénarios permettent de se passer considérablement d'expérimentation animale. On peut créer différents modèles de cœur électrique et ça nous aide considérablement pour choisir quel type d'expérimentation sera le plus adapté, simulation de diagnostic, de thérapie, ou même la pharmacologie computationnelle, c'est-à-dire quel médicament va verrouiller, par exemple, tel type de canal et ne pas avoir des conséquences délétères sur la globalité de la fonction. C'est un outil considérable et nous avons la chance d'avoir à Bordeaux, en collaboration avec l'INRIA aussi, deux des meilleurs modeleurs de l'électrophysiologie cardiaque. Alors, entrons dans le vif du sujet. Mortalité cardiaque, donc 700 000 en Europe. La moitié des décès cardiaques se font de façon progressive, c'est-à-dire que le cœur est altéré, il va s'altérer petit à petit, et puis, tel le cheval fourbu, l'organe va arrêter de fonctionner. C'est l'insuffisance cardiaque. Mais l'autre moitié, c'est la mort subite, c'est-à-dire que le décès est instantané, et c'est l'un des problèmes qui reste peu... qui a peu évolué, on va dire, en termes de recherche et de thérapie depuis une vingtaine d'années, alors qu'on a fait des progrès considérables dans l'insuffisance cardiaque. Le troisième volet sur lequel on travaille, c'est les arythmies cardiaques, qui sont une cause majeure d'AVC. Et c'est ça que l'on va regarder maintenant en détail. Donc, quand on pense arythmie, la fibrillation auriculaire en est une, mais c'est de loin la plus fréquente. Donc, 1% de la population ont de la fibrillation de l'oreillette. Vous avez ici... Ah, c'est dommage. Vous avez ici le ventricule, et quand la fibrillation... Il y a un petit mouvement vermiculaire des oreillettes, et ce petit mouvement vermiculaire fait que les caillots ne se forment pas à l'intérieur, que des caillots se forment, parce que là, il n'y a pas de contraction mécanique, et la plupart de ces caillots vont se diriger vers les artères cérébrales, et c'est un facteur majeur de stroke, c'est-à-dire d'accident vasculaire cérébro-ischémique. C'est donc peut-être la raison principale pour traiter ces fibrillations auriculaires. Et une deuxième chose, c'est que l'oreillette ne se contractant pas, le ventricule est affaibli parce qu'il n'a pas assez d'apport sanguin. Et le troisième élément, et dont on est certain maintenant depuis 5 ou 6 travaux, c'est que sans doute, ces petits caillots qui se font dans les oreillettes fibrillantes envoient de façon des petites pluies d'embolie, et il y a de façon certaine un doublement des démences d'origine vasculaire ou des démences de type Alzheimer. Donc ça fait beaucoup de raisons pour traiter la population qui est actuellement de 5 à 6 millions d'individus en Europe et qui atteindra 20 millions en 2050. Alors, sur le plan de la simulation, vous avez ici, j'espère qu'il va bien vouloir marcher, Vous avez ici donc un modèle dans lequel on voit une espèce de ballet d'ondes apparemment chaotique. Et c'est ainsi que l'on se visualise ce qu'est une fibrillation, un mouvement perpétuel. Et un élément que nous avons appris par justement la théorie, c'est que parfois, il y a des mouvements de tourbillons, je ne sais pas si on en voit quelques-uns, ici par exemple, des petits mouvements tourbillonnaires dont on ne savait pas qu'ils existaient sur le plan expérimental et qui ont été montrés par la théorie et confirmés ensuite. Ça a été l'un des apports de la théorie à la pratique clinique dont je vous montrerai des exemples. Donc, vous avez ici le chaos tel qu'on l'imagine. Ici, voilà, vous avez les ondes qui balayent. Et pendant 4 ans, on a essayé de comprendre à Bordeaux pourquoi cette fibrillation, de façon épisodique, c'est-à-dire celle qui apparaît sous forme de crise, pourquoi elle démarrait. Vous avez ici un rythme normal, vous avez ici une fibrillation qui démarre, et ici, vous avez l'étincelle. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et pendant 4 ans, on a travaillé sur ce tout petit segment de 100 millisecondes pour savoir d'où venait l'étincelle, dans cet endroit-là, de quel endroit elle venait. Parce que jusque-là, on pensait que ça pouvait venir de partout. Et on a eu la chance, avec beaucoup de travail, bien entendu, de trouver que ces petites sources-là proviennent des veines pulmonaires, de sorte que le chaos que vous voyez ici, un phénomène extrêmement complexe, ne vient en fait que de quelques petites sources qui, dans le cas particulier, sont dans les veines pulmonaires, c'est-à-dire dans une structure pulmonaire dont on pensait qu'elle n'avait rien à voir avec l'activité cardiaque. Et donc, sur le plan conceptuel, petite chose et effet désastreux. Et donc, c'est ce qui a mis en place la thérapie. Ça, avant de faire de l'ablation, il a fallu faire la cartographie. Après, on peut porter le fer, si je puis dire. Et voilà donc la façon dont on travaille sur cette thérapie, par exemple, qui est actuellement dans la seule considérée dans le monde. Il s'en pratique 300 000 par an. Donc, on introduit des cathéters par les voies naturelles, ici, et puis à l'intérieur, là, on n'a pas de caméra, mais c'est vrai qu'on a différents outils de navigation qui permettent d'y voir clair, peut-être pas aussi bien que chez Jacques, mais on arrive comme ceci à faire une isolation des veines pulmonaires. Les foyers sont à l'intérieur, les individus, on va dire, qui mettent le chahut sont à l'intérieur, et on va emprisonner ces cellules turbulentes à l'intérieur des veines pulmonaires, et c'est ainsi que sont guéris les malades, puisqu'il n'y a plus la puissance, on va dire, nuisible de ces sources qui sont extrêmement rapides, à 300 ou 400 par minute. Alors, c'était les arythmies par épisode, et il y a les arythmies permanentes. Et ça, c'est la moitié, c'est-à-dire ça fait 3 ou 4 millions d'individus en Europe. Et là, on est un peu démunis, et on va dire la physiopathologie est méconnue. Et pour reprendre donc les termes des leçons d'aujourd'hui, la physio, c'est finalement la fonction, on ne la connaît pas très bien. La pathologie, la structure, on ne la connaît pas non plus très bien. Pourquoi la pathologie est mal connue, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans la structure de l'oreillette, fait qu'on a des difficultés? C'est parce que les oreillettes sont très fines, elles ne font que quelques millimètres, et puis ça bouge. Et donc, pour l'IRM, c'est extrêmement difficile, et il y a beaucoup d'efforts effectués en partenariat avec l'INRIA pour ce petit tissu, on va dire, glissant, que l'on puisse parvenir, et depuis 2 ou 3 ans, on parvient à étudier la structure, progrès là encore de l'imagerie et progrès de la numérique appliquée à l'imagerie cardiaque. Et enfin, pourquoi la fonction, la physiologie est mal connue? Les signaux sont extrêmement compliqués, ça fait que depuis 100 ans qu'on entend parler de cartographie de l'oreillette, et c'est vraiment très difficile, c'est une espèce de chaos d'ondes dont on n'arrive pas à trouver, on va dire, un fil conducteur. Alors voilà les deux progrès qui sont en train d'apparaître. Un, on commence à faire de l'imagerie sur cette structure fine et pulsatile. Et par exemple, vous avez, tout comme dans le digestif, des patients, je vous souhaite d'être plutôt celui-là un jour, avec un petit peu de fibrose, quelques petites plages, plutôt que celui-là où vous avez une altération assez diffuse. Ça veut dire que d'un individu à l'autre, on aura un substrat pathologique qui sera différent et l'application thérapeutique sera différente. Et le sujet sur lequel il y a le plus de progrès à faire, je vous le disais depuis Eindhoven, c'est que l'électrocardiogramme a très peu évolué et il y a beaucoup d'équipes, dont notre IHU, qui travaillent sur ce signal. Le signal qui apparaît à l'intérieur de la surface cardiaque et qui se transmet. Alors, Nous avons commencé par mettre des outils. On met des cathéters à l'intérieur du cœur. Alors ça, c'est ici en forme d'étoile. Ensuite, on a mis des choses un petit peu plus grosses, des baskets, c'est-à-dire des paniers d'électrodes de 60 à 100 électrodes. Mais les résultats ne sont pas satisfaisants. Et on s'est orienté depuis 3 ans vers une veste qui va entourer le cœur de 250 électrodes. Vous allez avoir 250 yeux qui vont se focaliser sur le cœur et qui vont essayer d'aller, si je puis dire, attraper la substantifique au moine. Alors, le signal donc est émis ici, dans le cœur, et vous le voyez, on a très bien les activations dans le cœur, mais la transmission et la diffraction au niveau du thorax créent des ombres beaucoup plus larges, ce qu'on appelle, on va dire, le problème inverse. C'est-à-dire que vous avez un petit signal, il va partir, et vous allez avoir des tas de convergences qui rendent de la difficulté de ce problème inverse, de résoudre ce problème inverse. D'autre part, vous avez ici les potentiels auriculaires. Ils sont minuscules, donc ce qui rend encore la difficulté. Donc, par exemple, on prend un potentiel qui est ici. Il va être transmis à ce niveau-là, sans doute avec un champ de vision extrêmement large. Et c'est là-dessus qu'on essaie de travailler avec des mathématiciens, etc., pour résoudre le problème inverse. C'est-à-dire que l'idée, à partir des 250 électrodes qui vont se situer ici autour, c'est d'arriver à mieux focaliser et, à partir du thorax, de reconstruire l'activité telle qu'elle est générée à la source. C'est un gros challenge, mais on a quand même des éléments qui nous permettent de penser qu'on va devoir pouvoir progresser. La France est un pays où il y a quand même des mathématiciens et des physiciens de très haut vol. Alors voilà le système. Une veste, 250 électrodes. Vous faites un scanner. Ce scanner, voici le cœur que l'on veut explorer. Et vous voyez ici les petits points blancs. Ce sont les électrodes sur le thorax. Celle-là, c'est la 200. Celle-là, c'est la 35. Et donc, on va connaître pour chacune la distance des 250 électrodes par rapport à la structure. Et par des formulations mathématiques qui restent, bien sûr, à s'améliorer, on a eu des progrès considérables. On arrive à extraire l'information telle qu'elle est émise. Les mathématiciens ici présents savent que le problème inverse a des solutions multiples, mais on pense quand même qu'on a déjà progressé et qu'on pense qu'on peut encore améliorer les algorithmes. Alors, nous avons ça, ce sont les premiers résultats là, qui ont été publiés il y a un an. Vous avez donc une fibrillation auriculaire. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Elle est très lente. Là, vous avez ici l'échelle. Et donc, vous voyez que c'est un balai incessant. Mais en y regardant de plus près, on a l'impression qu'il y a parfois des rotations, des choses qui tournent. Et donc, c'est ce qu'on appelle les rotors. Et ça, ça a été une petite révolution. Ce ne sont pas des vagues erratiques. Il y a des petits tourbillons, des tornades, puisqu'on est à 300-400 par minute. Et c'est celles-là qui entretiennent, qui continuent à mettre le feu en permanence. Si on supprime ces petits tourbillons, on arrivera à les contrôler. Alors, on peut décomposer donc des mouvements complexes comme ceci en ondes purement passives, elles vont et viennent, ou bien en petits foyers. Là, vous avez ici un endroit d'où naît l'impulsion bleue. Et donc, c'est un foyer. Vous avez un endroit qui va vous envoyer des émissions de signaux. Et vous avez ici le rotor qui tourne là 4 ou 5 fois. Et ce sont ces deux types de sources focales ou ces tourbillons qui, à elles seules, suffisent à maintenir le feu chez ces patients. Et donc, vous devinez qu'on peut peut-être avoir des sources qui sont targetables, qui sont accessibles à un geste thérapeutique interne ou peut-être un jour externe. Alors, c'était la fibrillation de l'oreillette, les tourbillons et des avances assez considérables dans leur cartographie. On va descendre à l'étage le plus sévère, celui des fibrillations des ventricules. C'est une mort tout à fait extraordinaire, parce qu'on en voit beaucoup qui sont ressuscités et que l'on voit chez nous. L'âge moyen, c'est de 65 ans en France. Ça veut dire que la moitié de ces individus sont décédés alors qu'ils étaient en activité professionnelle, 20, 30, 40, etc. Et 80% de ces décès surviennent à domicile. 50 000 personnes par an. Les nourrissons sont négligeables, passez-moi le terme. Je veux dire, la mort subite de l'adulte, ça n'a rien à voir avec le nourrisson qui est assez bien contrôlé maintenant. Et la mortalité subite seule, et ça beaucoup de gens l'ignorent, y compris dans la presse, c'est égal à la mortalité du cancer du sein, du cancer du poumon et du cancer du côlon. C'est les cancers, les trois plus cancers les plus meurtriers, sont équivalents au décès foudroyant de ces morts subites. Alors en fait, souvent quand on parle d'arrêt cardiaque, comme chez cet homme de 41 ans, on s'imagine que la bougie s'est éteinte et que d'un coup, le cœur s'est arrêté. Ce qu'on appelle la systolie, le vrai arrêt cardiaque, dans la réalité, comme chez cette femme de 57 ans, en pleine nuit, ici, elle va démarrer une fibrillation ventriculaire, c'est ça la mort subite. C'est un emballement extrême, c'est-à-dire à 300-400, le cœur brutalement démarre, le patient perd connaissance dans les secondes qui suivent, et s'il n'est pas massé, défibrillaté en 5 à 10 minutes, il va décéder. Donc le terme d'arrêt cardiaque n'est pas ce qui se passe dans la réalité. La mort subite est une tornade électrique, est un phénomène extrêmement rapide. Et je vais vous montrer un tracé dont on a les droits de transmission, qui vous montre... Hein, c'est peut-être pas plus mal. On peut s'en passer. On voit... Je vais passer... Parce qu'en fait, voilà, vous voyez, en fait, c'est extrêmement. Ce monsieur est en train de parler, et brutalement, donc en fait, il sent un malaise, et c'est vraiment foudroyant comme ceci. Et donc, c'est ce que l'on voit. Le trouble du rythme est instantané. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de maladie qui donne un phénomène de ce type-là. Je suis un peu perdu. Excusez-moi, là-haut. Voilà. Donc c'est cette instantanéité qui a fait qu'il est extrêmement difficile d'étudier ces patients, puisque immédiatement, il y a cette perte de connaissance. Et donc on a pu, par différents moyens, on peut rester comme ça, hein ? D'accord, ça devrait, des fois que votre film ne fonctionne pas. Donc vous avez donc ici le phénomène, à domicile pendant 80%, voie publique 10%. Donc vous voyez, les défibrillateurs dans les places publiques ne vont pas, on va dire, adresser la majorité. Et puis, les sportifs ne sont pas un cas particulier. C'est simplement parce qu'ils font une activité sportive. En plus, il y a des caméras braquées sur les stades. Et donc, on a 1 à 2%. Donc, vous avez ici simplement un exemple très particulier chez les sportifs. Il est un petit peu expérimental. Il y a beaucoup de décès lors de pratiques de hockey sur glace et de baseball qui ont obligé les joueurs professionnels à porter des plastrons. Et vous avez ici, par exemple, c'était dans le New England, un choc apparemment anodé entre deux judokas. En fait, l'un des judokas a frappé son adversaire à une position extrêmement précise, juste une petite fenêtre de 10 millisecondes, et provoqué immédiatement une fibrillation ventriculaire. Donc il y a une petite fenêtre dans laquelle toutes ces petites pores ioniques peuvent, on va dire, se dérégler et entraîner un trouble du rythme majeur. Donc, les problèmes qui se posent ici, c'est la source. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus et on a pu montrer que l'étincelle de ces fibrillations ventriculaires se situe dans un tissu que l'on voit ici, qui est une sorte de ramification qu'on appelle des cellules de Purkinje, mais qui sont cardiaques, et ça constitue quoi, 2% de la masse cardiaque. Et ces 2% de la masse cardiaque constituent 80% du démarrage des fibrillations ventriculaires. Il y a donc un tissu extrêmement intéressant sur lequel une amélioration de la connaissance peut nous donner des solutions pour un problème aussi dévastateur. On a été brûler ces cellules par thermoablation, et puis les patients n'ont plus refait ces épisodes qui leur entraînaient des chocs répétés d'un défibrillateur. Malheureusement, on ne sait pas encore qui parmi nous, parce que peut-être aura des cellules de Purkinje vulnérables et va donner ces troubles du rythme. Alors, on s'oriente vers l'imagerie. Ceci, c'est un tracé de fluorescence. Pourrait-on, avec ce dont tu parlais, des cathéters, des monakea, etc., des petits outils, pouvoir mieux étudier, faire des biopsies, on va dire, optiques de ces cellules et voir si un individu donné est susceptible de faire. Là, il y a un problème majeur sur lequel on peut travailler et s'améliorer par les ressources numériques en particulier. Vous avez bien compris, pour les morts subites, on peut nous mettre un défibrillateur, le patient n'en fera pas. Mais qui sera, on va dire, les candidats ou les sujets vulnérables, reste un problème absolument fondamental. Il n'a pas beaucoup bougé depuis 20 ans, et sur le plan scientifique, c'est un challenge majeur. Alors voilà ce qui, dans la littérature, sont des marqueurs de risque. Je vous passe le détail. Et ils sont globaux, c'est-à-dire que c'est un marqueur qui va s'adresser à l'ensemble du cœur. Et le plus commun, c'est ce qu'on appelle la fraction d'éjection du ventricule gauche. Ici, là. C'est-à-dire que quand le ventricule est un peu faible, ou très faible, on estime qu'il y aura un risque. Mais c'est un facteur peu sensible, peu spécifique. Et on est convaincu que ce n'est pas dans la globalité qu'il va falloir les chercher et que le diable va se trouver dans les détails, c'est-à-dire dans une analyse très fine des différentes parties du cœur dans lesquelles on pense qu'il y aura une disparité de structure ou une disparité de fonction. Et donc on a besoin d'une amplification, on va dire, de la caractérisation de la structure et de la fonction pour parvenir, on va dire, à débusquer le diable, si je puis dire. Alors, les marqueurs génétiques sont importants. On estime que 10% de ces morts subites, c'est une mutation dans l'un des canaux ou dans les protéines qui leur sont associées. Il y a probablement aussi, non pas une mutation, mais deux ou trois ou quatre petites, et tout ensemble, elles convergent pour entraîner l'équivalent d'une mutation très pathogène. Et donc là, vous savez qu'il y a des recherches considérables, en France en particulier, on espère considérablement des progrès. Donc je veux en revenir à cette disparité, c'est-à-dire que vous avez ici un patient, il a fait une syncope, il a 70 ans, on lui fait donc un examen scanner, puis une IRM, et puis on s'aperçoit qu'il a des petites plages de fibrose ici. Il a donc une structure, il a fait une fibrose, une myocardite peut-être, une infection cachée, ou un infarctus, ce n'était pas très clair. Donc on avait là un marqueur d'anormal de cardiaque, de tissu cardiaque anormal. On a fait une exploration, on a provoqué une tachycardie ventriculaire très grave. On en a donc déduit que la syncope était bien liée à ce petit phénomène anatomique. On lui a posé un défibrillateur et puis cet appareil a délivré des chocs ultérieurement. Il avait bien fait une mort subite avortée et qui a pu être évitée par une analyse de l'image fine. Vous avez ici maintenant une approche fonctionnelle. On va étudier l'électricité. Ce jeune homme, il a 21 ans. Son frère jumeau est décédé subitement en dormant. On l'a découvert mort le matin. Et c'est son jumeau. Il a donc été exploré par cette veste et toute, on va dire, la haute résolution, même perfectible d'ailleurs, du système de cartographie dont on a parlé. Et on trouve par exemple ici en 1 des potentiels d'action de 140 millisecondes, en 2 de 260 millisecondes. Donc il y a là une disparité considérable entre deux plages voisines qui est parfaitement propice à faire un court-circuit et donc à déclencher le phénomène rythmique. Et enfin, un troisième point. Ces patients, quand ils ont un défibrillateur, on déclenche la fibrillation ventriculaire. Ils sont anesthésiés parce qu'on veut être sûr que l'appareil va faire sa fonction, c'est-à-dire défibriller et remettre le cœur en ordre. Et donc, sur ce jeune homme-là qui a eu à 23 ans une fibrillation ventriculaire, on a posé un défibrillateur et on a déclenché une fibrillation ventriculaire. Et vous voyez très bien sur la partie inférieure ici qu'on a des rotors, qu'on a ici des rotations, et donc qui est parfois une, parfois deux. Et pour nous, ça donne une information qui est clé. C'est-à-dire qu'il est vraisemblable qu'au centre du rotor, dans l'œil du cyclone, il y aura des caractéristiques particulières focalisées qui nous permettront d'avancer dans la connaissance de ces patients. C'est là-dedans que se situe, on va dire, le diable, et c'est là-dedans qu'il va falloir explorer et pour voir quel type de potentiels anormaux peuvent être repérés et servir ensuite pour tous les autres patients. Alors, l'insuffisance cardiaque, je pense que j'ai quelques minutes. Alors, quand vous traitez, c'est toute la pathologie médicale est ainsi, quand vous réduisez les maladies, les décès par les médicaments, vous entraînez de façon considérable toute une kyrielle de patients qui n'ont pas décédé tôt, mais qui vont avoir une pathologie qui va en faire des pathologies chroniques. Et c'est très particulier au cœur. grâce aux thérapies de l'infarctus aigu, on a beaucoup de patients qui ne sont pas décédés de façon aiguë, et c'est un bien, mais qui vont vieillir avec un organe qui va se détériorer progressivement. Et donc, vous avez ici, par exemple, un patient donc, qui a... voilà, vous avez un cœur ici fatigué. Hein, vous le voyez, il ne se contracte pas très bien là-haut. Il a un mouvement ici qui est une espèce de claudication. Je vais vous le remontrer. Là, vous voyez, elle claudique. Et dans l'insuffisance cardiaque, le cœur n'est pas globalement mou, il est souvent anarchique. Et on s'est dit si on pouvait resynchroniser, c'est-à-dire ceux qui étaient un peu en retard pouvaient être remis en phase avec les autres, comme les tireurs à la corde de mon pays d'adoption, qui tous doivent tirer ensemble et non pas de façon asynchrone, on arrive à restaurer la fonction cardiaque. La moitié de ces patients ont une insuffisance cardiaque avec une asynchronie. Et c'est là qu'on utilise toutes ces techniques d'imagerie pour savoir là où il y a des fibroses, là où il y a des infarctus, là où il y a la fonction. Et on développe, avec l'INRIA ou avec d'autres équipes, un modèle qui permettra de façon personnalisée de mettre un pacemaker et exactement les sondes à l'endroit où l'optimisation sera parfaite. On est dans le même domaine que Jacques et Nicolas parlaient tout à l'heure, d'une personnalisation et de thérapie aidée par les images de toute nature qui nous sont accessibles. Et vous vous rappelez de notre patient avec ce cœur claudiquant. Ah oui, là, on le voit bien, vous le voyez quand même très bien. Hein. Il est beaucoup plus costaud, il est beaucoup plus fringant. Voilà. Alors, je finirai en vous disant qu'il y a des tentatives dont on peut cartographier par l'extérieur. On peut commencer certainement à envisager de faire des thérapies par l'extérieur, sans ouvrir, en envoyant soit des rayons gamma, soit des ultrasons. Et nous, on travaille en particulier sur les ultrasons à Bordeaux. Vous savez qu'on peut imprimer différentes parties cardiaques, etc. Je vous passerai. Il y a des progrès absolument prodigieux dans les applications. Là, vous avez une application pour savoir quand vous êtes à New York ou ailleurs, où sont les défibrillateurs accessibles. Là, vous pouvez vous prendre votre électrocardiogramme. Et là, vous pouvez aussi écouter votre cœur. Et là, vous avez ici, par exemple, des petits capteurs, des systèmes embarqués. Regardez la taille qu'ils ont, dans lequel vous avez de multiples senseurs qui vont vous suivre à la trace et transmettre par télémétrie votre électro, etc. Et puis enfin, on a même vu qu'on pouvait faire des consultations à distance dans lesquelles le médecin, ici, là, magnifique et blanc, vient voir un individu chez lui par holographie. Mais prenons garde de ne pas y perdre notre âme. Voilà, donc ceci est l'Institut dans lequel nous avons la chance d'avoir des Belges, des Hollandais, des Américains, des Australiens, des Anglais et des Canadiens et d'autres Canadiens. Alors, je vous ai un peu. Voici toute l'équipe INRIA, Maxime, et les différentes personnes, ici Canada, Suisse, etc. On a beaucoup de forces venant de multiples pays pour travailler sur un thème qui est très sharp, qui est très focalisé. Et on espère pouvoir, on va dire, réussir, tout comme Jacques, à répondre aux challenges que nous ont imposés les IHU. Et comme je crois que je vous ai un petit peu traumatisé que vous avez souffert avec à la fois la présentation et les claudications, plus ce pauvre malheureux-là qu'on a vu en direct, on s'est permis, avec Nicolas, de vous donner un petit film pour vous divertir. Donc, vous connaissez cet individu. Il y a une syncope en face de lui. Alors, il va s'en occuper. Il y a le son, hein, mais le son, c'est des rires en fond sonore. On va s'en passer. Mais vous allez voir. Il est plein d'inventivité. Alors, il oublie de le masser, hein, mais bon. Première défibrillation, échec. Deuxième échec. Voilà. Elle lui donne ses comprimés, tiens. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Thank you.